dire bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Le mot discothèque est utilisé en Amérique, mais il a d'abord été forgé en français sur des bases gréco-latines. Et le mot brainwashing, lavage de cerveau, est un calque du chinois. Des mots nouveaux apparaissent pour désigner des réalités nouvelles. Tant qu'il y aura des langues, elles continueront à échanger leurs mots sans craindre de perdre leur âme. Car une langue qui vit est une langue qui donne et qui reçoit.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Il existe dans certains pays contemporains un certain protectionnisme langagier. Il s'agit de se défendre contre l'invasion de mots étrangers qui semblent exercer une influence délétère sur un héritage culturel et sur l'originalité d'un destin collectif. Il n'est pas question ici de dénigrer, bien au contraire, les efforts de ceux qui s'inquiètent dans ce domaine de telle ou telle lâcheté, de telle ou telle paresse, de telle ou telle complaisance. Mais il ne s'impose pas moins de prendre la mesure de l'intense circulation des vocables de siècle en siècle par-dessus toutes les frontières. Ce sera notre projet ce matin, avec le concours du grand linguiste Bernard Cerchiglini, que je reçois toujours avec bonheur à ce micro. Il a été délégué général à la langue française et aux langues de France et recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Il est membre, ce qui ne gâte rien, du fameux Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, le plus joyeux laboratoire de jeu du langage. Voici quelques années, nous avons braqué notre attention avec lui sur la question du franglais, considéré dans la longue durée. Aujourd'hui, nous allons élargir la focale en pensant à d'autres langues et à d'autres pays. Nous parlerons du monde arabe, de l'italien, de l'espagnol entre autres, et nous nous arrêterons sur la richesse que représente l'apport pour la France des pays francophones. On retrouve partout, quant au mot « baladeur » sautant les frontières, l'influence des guerres, des colonisations, des compétitions économiques et scientifiques, et en somme au moins pour les périodes récentes de la mondialisation. Les transferts de vocabulaire ne sont d'ailleurs jamais en sens unique, et les va-et-vient que connaissent les mots d'un monde à l'autre, non sans les déformer, ne constitue pas le moindre intérêt du sujet qui nous réunit aujourd'hui.
Au voleur, au voleur, au voleur, qui a volé les mots, qui a volé les mots, encore ces Français, quel culot, volé les mots. Regardez-en en plein la bouche, plein les poches, de tous ces mots piqués partout, tu crois pas que c'est moche. Voler des mots sans en avoir l'air, et les coller en douce dans son dictionnaire. Voler des mots sur toute la planète, ah vraiment ces Français sont pas nets, de vrais pickpockets. Voler aux Grecs, aux Latins, aux Gaulois,
ça va de soi, ça va de soi.
Voler aux Anglais, aux Allemands, aux Italiens,
c'est normal, entre voisins, c'est normal, entre voisins.
Oui, mais voilà, ça va bien plus loin. Ils ont même volé les Polynésiens. Piqué paréo et tabou au Tuamotu. Chez les Chinois, le mot typhon soufflé pour de bon. Banane et macaque en Afrique,
tu parles d'un trafic.
Le raffia chipé au Malgache,
à coup de cravache.
Même aux Arabes,
c'est le bouquet.
T'imagines pas ce qu'ils ont piqué. Le parda, le safari, le café, le nénuphar, la guitoune et le satin, la valise et le hasard, le magasin,
le cramoisi,
le charabia
et le chini,
le sirop,
le sirop,
le sofa,
le sofa,
le souquet, la nouba. Au voleur, au voleur, qui a volé les mots, qui a volé les mots, encore ces Français, quel culot, volé les mots. Regarde, ils en ont plein la bouche, plein les poches. De tous ces mots piqués partout du gros pack, c'est moche. Voler des mots sans en avoir l'air et les coller en douce dans son dictionnaire. Voler des mots sur toute la planète. Ah, vraiment, ces Français sont pas nets. De vrais pickpockets. Voler aux Grecs, aux Latins, aux Gaulois.
Ça va de soi, ça va de soi.
Voler aux Anglais, aux Allemands, aux Italiens.
C'est normal, notre voisin, c'est normal, notre voisin.
Oui, mais voilà, ça va bien plus loin. Ils ont même volé les Amérindiens, la tomate et la cacahuète au nez des Aztèques. Le toboggan, le mocassin chez les Algonquins. Oh. Voler aussi les Bengalis. Oh, plus de pyjamas. Et puis leur joli paradis.
Nommé Nirvana.
Et même en Turc.
Oh, c'est le bouquet.
T'imagines pas ce qu'ils ont piqué? La turquoise et le turban, le cosaque et le derviche, la bergamote et le divan, le caviar pour les riches, le talisman,
le cimetière,
la perca
et le janissaire,
le pacha, le lascar, ça ravant des bazars. Qui a volé les mots? Qui a volé les mots? Encore ces Français, quels culots, volé les mots. Oh, oh. Regarde, ils en ont plein la bouche, plein les poches. De tous ces mots piqués partout, tu crois pas que c'est moche? Voler des mots sans en avoir l'air et les coller en douce dans son dictionnaire. Voler des mots sur toute la planète. Ah, vraiment, ces Français sont pas nets. De vrais pickpockets. Ah, vraiment, ces Français sont pas nets. De vrais pickpockets.
Bernard Cerchellini, bonjour.
Bonjour.
Vous avez entendu « Qui a volé les mots ?», une chanson de Michel Bernard, composée par elle, interprétée par elle, qui remonte à 1998 et est chantée ici en 2012. Vous la connaissez, cette chanson ?
Mais non, je vous dois à la découverte de cette très belle chanson qui traite plaisamment le sujet de notre émission « Qui a volé des mots ?». Nous avons volé des mots à la plupart des langues de la planète. Mais rassurons-nous, on nous a beaucoup volé également. Nous, le français a donné des mots à une centaine de langues du monde. Et après tout, est-ce un vol? Nous nous sommes enrichis. Le grand grammairien lyonnais de la Renaissance, Louis Maigret, disait « Emprunter un mot à une langue étrangère, c'est comme prendre au tison du feu à la cheminée d'un ami. On ne l'appauvrit pas et on s'éclaire et on se chauffe avec ».
Et c'est cette puissante circulation que nous allons considérer aujourd'hui. Vous avez publié, il y a quelque temps, avec Eric Orsena, en complicité avec lui, un petit livre tout à fait plaisant qui s'appelle « Les mots immigrés ». Vous imaginez une association des mots immigrés qui proteste parce que on veut les exclure tous de la pratique de la langue française. Et le résultat est évidemment saisissant.
Oui, nous avons écrit ce conte, Eric Orsena et moi, pour rappeler que le français est formé de mots empruntés à d'autres langues et qu'il y a très peu de mots souches. Il faut donc se déprendre de cette idée de la recherche d'un terme d'origine, comme il faut se déprendre aussi de l'idée des français de souche. Nous avions traité les mots, on aurait pu traiter de termes plus politiques.
Voilà, une petite pique en passant, je reviens aux mots. Je reviens aux mots et on peut citer aussi Montaigne, au XVIe siècle, qui disait déjà « Le langage écoule tous les jours de nos mains et depuis que je vis, il est altéré de moitié. »
C'est ce que dit Montaigne. Il est vrai que la langue française évoluait beaucoup au XVIe siècle. Il en avait conscience. Mais nous devons à Montaigne beaucoup de mots nouveaux et des emprunts. Le plus célèbre, c'est cette découverte qu'il fait en Italie d'une salle de bain collective où se trouve un tuyau placé au plafond d'où s'écoule de l'eau chaude. Et les Italiens appellent cela la doccia. Et Montaigne trouve cela merveilleux et il importe le mot douche. Quand nous chantons sous la douche chaque matin, pensons à Michel de Montaigne.
Dans vos mots émigrés, Bernard Cerchellini, vous rappelez que les langues, je vous cite, ne sont pas figées, jamais sculptées dans le marbre pour l'éternité. Ce sont, dites-vous, de grosses bêtes, très souples, très diverses, mais surtout très vivantes, aussi généreuses que dévoreuses. Elles n'arrêtent pas de prêter et d'emprunter. C'est peut-être une épigraphe pour notre conversation.
En effet, si vous le souhaitez, nous avons voulu montrer que le purisme est une nostalgie et un mythe. Les langues évoluent, elles empruntent, elles se nourrissent. Et globalement, dans l'histoire de la langue, la plupart des emprunts étaient bienvenus. Ils sont venus pour désigner une idée nouvelle, un sentiment nouveau, une innovation technologique ou scientifique par un terme que nous avons emprunté. Il est un grand commerce des langues, des échanges qui se nourrissent. Cela dit, beaucoup de mots nouveaux, au contraire, appauvrissent, déstabilisent, enfument et sont critiquables. Et je pense en particulier, Eric Orsenna et moi-même, nous pensions à la plupart des américanismes qui viennent se substituer à des mots clairs, anciens, transparents, et les remplacer par une opacité que l'on peut critiquer.
Qu'est-ce qui se passe quand tous ces mots étrangers font la grève ?
Alors, dans notre conte, nous avons inventé une AMIE, l'Association des mots émigrés, qui sont furieux qu'une certaine candidate à l'élection présidentielle les critique, et ils décident de faire la grève, c'est-à-dire qu'on ne peut plus utiliser un mot d'origine étrangère. On ne peut plus utiliser dans la conversation, dans le discours politique, que, par exemple, les mots gaulois. Donc on peut former un discours à l'aide de alouette, ruche, braguette, ce qui empêche tout de même un concert politique. Et du coup, le Conseil constitutionnel arrête l'élection présidentielle et pendant 8 jours, la repousse de 8 jours, et pendant 8 jours, donne la parole chaque soir à un représentant de ces langues qui ont nourri le français. Nous avons donc à la télévision le soir, Nagui ayant cédé sa part dans l'émission, nous avons Monsieur Cassanos qui vient parler du gaulois, un capitaine Panache qui vient parler de l'italien, Mademoiselle Amour qui vient parler des mots d'origine provençale et ainsi de suite. Et pendant une semaine, les Français apprennent l'apport de ces langues aux Français. Et ensuite, on tient l'élection présidentielle, le pays ayant été calmé et surtout informé.
Qui émerge comme élu ?
Nous ne le disons pas.
Vous avez observé qu'il y avait 120 langues qui avaient contribué au français.
À peu près, on pourrait dire, pour rappeler mémoire et les esprits, que 120 langues ont nourri le français, parfois avec un mot, l'inuit nous a donné igloo, mais autant de langues ont bénéficié du français. Mon ami Jean Pruvot vient de publier un joli petit livre sur cette question, sur tous ces mots qui sont allés se promener dans le monde. Mon préféré, c'est toilette. Cela semble paradoxal, mais après tout, qu'est-ce que la toilette ?
Chacun ses goûts. Enfin, prenez le mot, on peut le prendre de deux façons au moins.
Oui, on peut le prendre étymologiquement. La toilette, c'est la petite toile en dentelle de Calais que l'on posait sur la table de maquillage, que les dames posaient, et cette toile a désigné d'abord le meuble, puis l'opération, faire sa toilette, puis la salle, puis par un sens dérivé, ce que nous savons. Mais c'est tout de même la petite toile fine française qui a donné à la plupart des langues du monde le mot toilette.
Ce sont ces glissements que l'on observe constamment, qui sont assez fascinants. Autrement dit, les mots voyagent, mais ils changent.
Oui, à chaque fois, le mot change. Donc quand on parle d'emprunt ou de calque, il faut bien voir qu'il y a très souvent une adaptation au travers de l'adoption. Et en particulier, à propos de toilette, on l'a vu à l'instant, je suis frappé de l'usage de la métonymie dans l'évolution des langues, c'est-à-dire de prendre l'ensemble pour le tout ou le tout pour l'ensemble. C'est un moyen qu'ont les langues de faire bouger les mots.
Par exemple ?
Eh bien, toilette, vous voyez, la toile a désigné le meuble a désigné la pratique a désigné de nouveau l'espace, et les mots changent. Et quand un mot est passé, par exemple, à l'italien, l'espagnol, l'anglais, et nous revient, c'est avec un sens nouveau, je crois que nous en parlerons plus tard.
On peut évidemment commencer par braquer son attention sur les origines du français, en particulier la manière dont il s'est défini à la rencontre, vous l'évoquez, du gaulois, du celte, du romain, tout ça fait ce qu'en français on appellerait un melting pot.
Oui, en français en effet, ou un patchwork. Ce que nous avons voulu montrer, Eric Orsenna et moi, c'est que, j'y reviens, il y a très peu de mots de souche. Il y a très peu de mots qui n'ont pas évidemment d'origine ni franque, ni latine, ni celte. Peut-être garrigue, peut-être calanque. Et alors nous avons choisi, parce que c'était un conte, nous avons choisi le mot caillou, qui nous paraît le mot le plus ancien de la langue française. Il est sans doute préhistorique et nous avons créé un personnage au fond d'une grotte qui est monsieur caillou, le plus vieux mot de la langue française.
Vous attestez, Bernard Cerchiglini, que les néandertaliens employaient le mot caillou.
Oui, nous pensons, et d'ailleurs dans notre conte, nous l'avons au téléphone. Sa voix est très lointaine, on a du mal à l'entendre, mais c'est monsieur caillou, le plus vieux mot. Tous les mots ensuite sont immigrés, puisque les Celtes, après tout, ne sont arrivés que 5 siècles avant Jésus-Christ. Ils ont apporté la langue gauloise. Ensuite, le latin. Et ce n'est pas le latin que vous avez appris, cher Jean-Noël Jeannonet. Ce n'est pas le latin de Tacite, de Virgile, mais c'est le latin des commerçants, des soldats. Le latin est arrivé en France, une importation ensuite. Et puis.
Et du coup, c'est un latin populaire différent de celui des grands auteurs. Et certains mots ont glissé précisément du latin savant au latin populaire qu'on pouvait parler dans la rue.
C'est ça. C'est-à-dire que le gallo-romain est fait du latin parlé. On disait, pour manger, on disait bouger les mâchoires. Manducare a donné mangiare, manger, ainsi de suite.
Alors que manger se disait différemment chez les
Émérés,
édéré.
Et puis une influence germanique après forte qui fait la spécificité de la langue française au sein des langues romanes. Donc vous voyez toute une série de vagues lexicales, linguistiques qui sont venues nourrir et constituer notre langue.
Les mots germaniques viennent d'ailleurs enrichir spécialement le vocabulaire militaire, car c'est un des points qui frappe, c'est que les armées apportent leurs mots avec elles. Et naturellement, le vocabulaire militaire est transposé spécialement dans les périodes guerrières, comme elles sont innombrables.
Oui, et elles sont innombrables. Les Francs qui ont gouverné la Gaule du Nord ont donné le vocabulaire militaire premier, le haume, le haubert, l'éperon, la flèche. Nous avons fait de même quand nous avons colonisé l'Angleterre après 1066. Le vocabulaire de l'armée anglaise vient du français.
Par exemple ?
Tout simplement le soldier, le soldier, ainsi de suite, les armes. Ensuite, à la Renaissance, à la suite des guerres d'Italie, nous avons compris, parfois un peu brutalement, la supériorité militaire des Italiens. Et le deuxième, dans l'histoire, le deuxième vocabulaire militaire français vient de l'italien, du soldat au colonel, de l'embuscade au canon et à la cartouche.
C'est vrai, même des traités, souvent à travers l'histoire. C'est l'occasion de parler ensemble et donc de laisser les mots glisser. Le traité de Versailles, si on fait un saut dans le temps, est frappant à cet égard quand on passe du français comme seule langue diplomatique à l'anglais. Clémenceau, qui négocie le traité, se console avec une phrase fameuse. En somme, l'anglais n'est que du français mal prononcé.
C'est une très belle phrase. Et il avait tout à fait raison.
Alain Bobert, qui s'est beaucoup occupé de ça et qui s'est beaucoup attristé, a relevé que dans une phrase en anglais, très facilement, on peut ne mettre que des mots français.
Oui, plus de 40% du vocabulaire anglais proviennent du français, à la suite de cette véritable colonisation de l'Angleterre après 1066. Clémenceau, que vous aimez citer, moi aussi, disait, après tout, l'Angleterre, ce n'est qu'une colonie française qui a mal tourné. Mais j'ajouterais que, au-delà du quantitatif, il faut penser en termes qualitatifs. C'est-à-dire que nous avons donné à la langue anglaise tout le vocabulaire qui l'a rendue internationale et prestigieuse. Les mots du commerce, de l'administration, de la politique, du droit, de la foi, de la spiritualité. L'anglais, c'est principalement du français, et du français éminent.
La politique emploie tous les mots français en Grande-Bretagne, et comme elle revient, grâce à l'admiration de beaucoup d'acteurs de la Révolution française, en particulier au XVIIIe siècle et avant, la Révolution, c'est un retour naturel.
Oui, après tout, nous parlons d'emprunt. Or, un emprunt nécessite un retour avec intérêt. Et au moins au XVIIIe siècle, l'anglais nous a rendu des mots français dans un sens qui était utile. Voltaire a passé 3 ans en Angleterre, il y a écrit les lettres anglaises. Les philosophes à Londres ont découvert le club, autre mot arrivé à l'époque, où l'on discute de politique. Et les termes politiques anglais ont été adoptés par la Révolution. Tout ce vocabulaire du parlementarisme.
Constitution,
convention, la grande convention, est un anglicisme. Et puis majorité, minorité, ainsi de suite. Ce sont des mots français qui ont pris un autre sens dans la langue politique anglaise et qui sont revenus. C'est un enrichissement, nous n'avons pas à critiquer. C'est très différent des américanismes qui viennent actuellement prendre la place de mots français transparents.
Puisque nous parlons, Bernard Cerchiglini, des conquêtes militaires, des colonisations, il y en a eu à toutes les époques, on peut s'attarder un instant au cas des Arabes, qui évidemment ont beaucoup pesé sur la définition, l'évolution du vocabulaire en Europe occidentale. Pour entendre des exemples, je vous propose cette archive qui est extraite d'une émission du 7 avril 1960 sur la radio scolaire. Parlons peu, parlons bien. Je ne sais pas s'il parle bien. En tout cas, il s'agit de Jean Faillard. Vous savez, celui qui avait eu le prix Goncourt en 1931. Il était le fils du fondateur de l'édition Faillard et qui avait battu Vol de nuit de Saint-Exupéry. Mais ce n'est pas directement notre sujet. Écoutons Jean Faillard.
Je vais commencer par vous présenter les mots les plus courants. Donc, bled en arabe veut dire à la fois ville et pays. En français, il a pris un sens légèrement péjoratif. Quand il désigne une ville, c'est un genre de village. Quand il désigne une campagne, elle est éloignée, un culte déserte. En argot de Paris, on dirait une cambrousse. Baraka, en arabe, signifie bénédiction. Chez nous, c'est devenu une chance exceptionnelle. Baroud, poudre à canon, est devenu la guerre, le combat. Bessif veut dire forcément. Ne confondez pas deux mots qui se ressemblent, Bessif et Bézef. Bézef, qu'on peut écrire avec un ou deux Z, signifie beaucoup. En français, on l'emploie surtout dans l'expression « pas Bézef », qui veut dire « pas beaucoup ». Le barda, qui est le sac des soldats, est aussi le bas de l'âne. Chouya veut dire un peu. Kleps, un homo argot pour chien, est une légère déformation du mot arabe « kelb » qui donne « Klab au pluriel. Kif kif veut dire la même chose. Vous ne saviez peut-être pas non plus que Maboul était de l'arabe.
Ça veut dire fou.
Comme chez nous. Les langues ont besoin de beaucoup de mots pour dire fou. Même avant l'invention de l'automobile, les hommes ont éprouvé le besoin d'affirmer que la plupart des autres étaient Maboul.
Alors l'arabe dans notre vocabulaire, dans le vocabulaire de l'ensemble de l'Europe occidentale.
Jean Faillard cite des mots arabes qui date de la colonisation française après 1830. Et il nous montre au passage que la colonisation fonctionne dans les deux sens. Nous avons donné beaucoup de mots à la langue arabe et l'arabe nous a donné les mots qu'il a cités, le toubib, le bled. D'ailleurs, au passage, depuis cet entretien, bled est devenu positif. Les jeunes gens parlent de retour au bled comme retour chez eux.
L'entretien est vieux de 70
c'est
ans.
C'est ça, à l'époque, bled était péjoratif. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que l'apport de la langue arabe au Moyen-Âge français est considérable. Jean Pruvot a écrit un très beau livre au titre paradoxal « Nos ancêtres, les Arabes ».
On ne se lasse pas de célébrer Jean Pruvot.
On ne se lasse pas de célébrer notre ami Jean Pruvot. Et Jean a rappelé l'apport considérable. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, la civilisation arabe a été la plaque tournante, aussi bien géographique, la Méditerranée, qu'historique, entre l'Antiquité grecque et la science grecque, et nous. La science grecque est passée en Europe grâce aux Arabes. Et le vocabulaire scientifique français, du moins celui du Moyen-Âge, grande partie tient à l'arabe. Un mot grec, ambix, vase à distiller, il a donné avec l'article arabe, alambic. Et l'alambic, l'alcool, on retrouve encore l'article arabe al, l'alambic, l'alcool, l'algèbre, l'algorithme, qui n'a pas de Y, car ce n'est pas un mot grec, c'est un mot arabe, ainsi de suite. Et sans parler de la botanique et des sciences naturelles. C'est-à-dire que l'arabe a transféré une culture ancienne dans notre culture, comme il a transféré géographiquement par la Méditerranée des termes du Proche-Orient à l'Occident.
Dès le 8e siècle, à Damas, on copie les manuscrits anciens et nous sommes très reconnaissants à l'égard de ces passeurs.
Sont des passeurs, rappelons-nous aussi les traducteurs juifs de Tolède, plurilingues, qui ont permis les traductions et le passage des termes. Donc l'arabe est venu nourrir la langue française. Le mot chiffre et le mot zéro viennent tous deux de l'arabe sefer, qui signifie vide. Et on voit donc l'apport scientifique, mais je voudrais aussi parler de l'apport géographique. À l'entrée de la galerie de Villers-Cotterêts, dont les commissaires sont Barbara Cassin et Xavier Nortes, nous avons placé une carte de la Méditerranée.
Vous dites-nous parce que vous en mêlez.
Je m'en suis un peu mêlé. Et nous avons placé une grande carte de la Méditerranée où l'on voit le passage des mots grâce à l'arabe. Et en particulier, j'ai suggéré la présence du mot abricot, que j'aime beaucoup. D'abord, j'aime les abricots et qui est spectaculaire. On a un latin praecocum, précoce, parce que c'est un fruit qui mûrit très tôt. Passe au grec, praecocon. Et les Grecs vont créer des vergers en Syrie pour faire pousser des abricots. En Syrie, le mot passe à l'arabe, qui n'a pas de P, qui a des B, donc barkouk, al-barkouk, abricot en arabe, et les Arabes font sécher des abricots, les mettent dans des bateaux, qu'ils expédient, ou en Espagne, al-barikouk.
Décidément, il va falloir visiter Villers-Cotterêts. Je rappelle que c'est le lieu de fameuse décision de François Ier qui est actuellement en pleine rénovation.
Le château a été rénové, il a été sauvé, et la Cité internationale de langue française, pourvue d'une galerie permanente consacrée à la langue française, a été inaugurée. Et je vous invite à aller voir cette galerie. Nous avons voulu montrer dès le début que la langue française a donné des mots au monde entier et qu'elle en a reçu aussi. Il ne faut pas avoir un point de vue puriste, une conception marmoréenne de la langue, il faut l'inscrire dans un échange. Et c'est bien l'idée de cette galerie qui donc cite des mots venus d'un peu partout et montre en particulier le rôle de, j'ai dit, plaque tournante historique et géographique de la langue arabe.
Il y avait une plaque tournante dès la période du Moyen-Âge. Je pense à la bibliothèque de Cordoue, dont on disait qu'elle contenait autant de volumes que d'habitants de la ville.
Exactement, autant de volumes que d'habitants. Toute la science du monde était à Cordoue et toute la science du monde a été traduite. On ne dira jamais assez l'importance de la traduction pour la constitution de la culture européenne.
400 000 volumes.
400 000 volumes, c'est énorme.
Nous parlons de l'arabe, il faut en venir aussi évidemment à l'italien. Bernard Cerchilvini, parce que au XVIe siècle en particulier, c'était furieusement la mode, notamment à Paris et en France, que de parler italien. Il faut dire qu'il y a eu Catherine de Médicis et ensuite, évidemment, Marie de Médicis, puis Mazarin, qui parlait français avec un fort accent. L'italien est également pourfendu à l'époque par un linguiste que vous aimez beaucoup, qui s'appelle Henri Étienne. Et vous avez le goût de faire souvent une concordance des temps avec Étiamble, qui, dans les années 1960, en France, était le paladin de la lutte contre le franglais.
Oui, vous avez cité le mot « mode ». L'italien est exemplaire pour notre sujet. D'une part, la langue française a beaucoup emprunté à l'italien à la Renaissance. Et elle a bien fait. De par la supériorité culturelle, technique de cette langue, nous avons emprunté des centaines de mots, bien sûr dans le domaine des arts, de la musique, de la gastronomie, mais aussi dans le domaine, je l'ai dit, militaire. Notre vocabulaire moderne vient de l'italien.
C'est l'époque des guerres d'Italie.
Les guerres d'Italie. Les guerres d'Italie ont montré la supériorité de l'italien.
Toujours les mots à la pointe de l'épée.
La plupart du temps, ils sont à la pointe de l'épée. Et le vieux soudier, dont l'anglais a fait soldier, a été remplacé par le moderne soldat. Mais aussi dans le domaine financier. Il y a à Paris une rue des Lombards, où travaillaient les banquiers italiens, on les appelait lombards. Et les banquiers travaillaient sur une banque, un comptoir, banque. Quand on avait fait faillite, on rompait la banque, bancarotte, la banqueroute. Et tout le vocabulaire des finances vient de l'italien. Donc
les armes, l'argent, on retrouve toujours les mêmes.
Le commerce. N'oubliez pas que nous avons eu des mots français qui venaient de l'italien, mais qui venaient de l'arabe grâce à Venise, grand port d'importation de produits, d'objets et de mots. Nous devons le café aux Arabes via Venise. Donc,
Rappelez-nous qui était Henri Étienne, qui d'ailleurs nous conduit à observer que les langages ne sont pas toujours répandus dans toute la société. Il y a des mots, des formules, des langues, des modes qui se concentrent dans telle ou telle fraction du pays, notamment souvent dans l'élite, la cour en l'occurrence, et qui ne parviennent pas forcément dans les profondeurs paysannes de la France.
C'est exactement cela, et ça nous permet de bien comprendre notre refus des américanismes actuels. Henri Étienne, qui est un grand philologue, un libraire, un éditeur, un homme qui a beaucoup travaillé sur le grec, a compris que les mots, l'arrivée des mots escarpins, moustache, cartouche, cette arrivée était utile.
Que ferions-nous sans eux ?
Que ferions-nous sans eux,
sans en moustache.
Effet. Sans moustache. Mais ils n'aiment pas cette mode à la cour, et la cour est italienne, Catherine de Médicis est régente pendant plus de 20 ans, et donc il attaque dans deux pamphlets qui sont sans doute demandés par Henri III. N'oubliez pas qu'Henri III voulait secouer le joug italien de la cour, il voulait sans doute secouer le joug de sa maman aussi, et Henri III est le premier à lancer l'idée d'une académie, l'académie du palais, qu'il a confiée à Antoine de Baïf, pour purifier la langue française. Et à la demande d'Henri III, Henri Étienne part en guerre contre ce snobisme qui fait que l'on ne dit pas « je suis fatigué pour avoir parcouru la rue toute la journée », mais on dit « je suis un peu stank pour avoir battu la strade toute la journée ». Et Henri Étienne dit « cela ne sert à rien ». Nous disons « parcourir la rue », c'est transparent, nous partageons ce mot, pourquoi le remplacer par un mot que peu de gens connaissent ? Quelques siècles après, c'est ce que dit René Étiemble. René Étiemble part en guerre, dans Parlez-vous franglais, contre des mots, ce sont des américanismes, qui viennent remplacer des termes.
Donc, les Yankees l'écrivaient ça.
Les Yankees l'écrivaient à la française d'ailleurs. Et donc Henri Étienne nous montre bien la différence entre l'apport nécessaire, utile, qui vient donner un vocabulaire commercial, financier, et puis les mots à la mode des petits marquis italianisants de la cour. Nous connaissons beaucoup de petits marquis actuels, avec cette différence que peut-être la mode est plus répandue, d'où actuellement, c'est-à-dire beaucoup plus de gens utilisent dans leur métier des mots américains. Et le danger est peut-être plus grand encore actuellement qu'à l'époque d'Henri Étienne.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Bernard Cerchiglini, ce chagrin souvent légitime qu'éprouve un certain nombre de nos contemporains à l'égard d'une invasion paresseuse de mots étrangers qui n'ont pas vraiment leur fécondité comme d'autres en ont eu, pour qu'on s'en console un peu, il n'est pas mauvais de faire un répertoire, une analyse de tous les mots français qui ont conquis le monde. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Jean Pruvot, que nous évoquions tout à l'heure, vient de publier sous les auspices du Figaro littéraire un joli petit volume qui s'appelle « 100 mots et expressions de la langue française qui ont conquis le monde ». Et vraiment là, la liste est tout à fait remarquable. Du côté du japonais, on trouve « coup d'état » et « prêt à porter ». Du côté de l'allemand, on trouve « coup de foudre », on trouve « avant-garde », on trouve « force majeure », animé par une force majeure. En italien, oser, voyeur. En anglais, on nous dire voilà, on trouve pis-aller, rendez-vous, tour de force, je ne sais quoi. Et en espagnol, baguette et foie gras. Vous en avez sûrement d'autres en magasin. Magasin, ça vient d'où d'ailleurs ?
De l'arabe.
Alors vous en avez d'autres en magasin, Bernard Cerchiglini ?
Bien sûr, mais d'une façon générale, il faut voir dans cette liste que vous avez citée, le rayonnement de la France à travers les siècles. Notre culture, notre gastronomie, nos philosophes, nos écrivains ont rayonné à un point tel que les langues ont adopté des mots. Et même parfois, il est chic d'utiliser des expressions pour revenir à l'anglais. Dans le dernier roman de John le Carré, j'ai noté 12 termes anglais utilisés par le narrateur ou par les personnages, chercher la femme, femme fatale,
tête à tête,
rendez-vous, tête à tête, ainsi de suite. Et tout à l'heure, je parlais du mot toilette. On pourrait aussi parler de tous les mots formés à partir de pasteur. La pasteurisation est un mot international formé sur le patronyme de pasteur.
L'amour aussi, décidément, affaire, avoir une affaire.
Alors, en anglais, affaire, c'est une liaison. Et donc, il ne faut pas non plus penser que nous sommes envahis, ou si nous sommes envahis, nous avons aussi envahi les autres pour la bonne cause. Et chacun a sa liste de termes que l'on peut trouver dans des langues les plus étonnantes, qui traduisent une pensée, une innovation, une culture et un rayonnement.
Et un snobisme aussi. Mais le snobisme peut être fécond.
Le snobisme peut être fécond, après tout, il est snob en anglais de cité du français et nous avons un snobisme et une anglomanie depuis le XVIIIe siècle.
Alors il existe un autre réservoir magnifique qui enrichit la langue française, où vous y êtes attaché, Bernard Cerchiglini, c'est tout ce qui nous vient de l'imagination des pays francophones en dehors de la France.
C'est un réservoir. Il faut enrichir le français et on peut puiser dans le français mondial. Le français a pris racine et a porté de beaux fruits partout dans le monde où on l'en parle librement, où on le fait évoluer. C'est une langue vivante. Et je me suis, dans un livre, intéressé à tous ces termes, expressions nées ailleurs et qui pourraient féconder, si nous le voulons, notre langue.
Ce livre qui est paru chez Larousse il y a quelques années s'appelait « Enrichissez-vous, parlez francophone !» point d'exclamation, avec comme sous-titre « Trésor des expressions et mots savoureux de la francophonie ». Je vous ai tout à fait fidèle à votre titre quand on vous lit.
Merci beaucoup, j'ai voulu paraphraser Guizot, on peut s'enrichir avec d'autres mots. Prenez un exemple.
Enrichissez-vous par le travail et par l'épargne, ça s'applique aussi au vocabulaire ?
Oui, par le travail linguistique, mais il ne faut pas épargner sa peine à aller se promener ailleurs. Vous savez, je suis un grand ami de la conjugaison du premier groupe. On dit toujours que l'anglais peut fabriquer un verbe avec n'importe quoi, mais le français aussi. Vous prenez un mot, vous ajoutez le suffixe ER et vous avez un verbe. Et parfois, il y a là une nouveauté, une innovation ou une simplification. Faire la sieste en Afrique, c'est siester.
Agender en Suisse ?
En effet, depuis le début du XXe siècle, j'en ai encore le témoignage récent, on agende un rendez-vous, on le réagende.
Mais il y a des mots qu'on ne comprend pas du tout. Alors là, vous distinguez deux catégories, ceux qui nous sont obscurs à nous autres Français. Par exemple, en Belgique, Archel, Acouette, Badré, Bardassé, nos auditeurs belges comprennent, mais pas vraiment nous.
Non, ce sont des francophonismes locaux. Chacun a les siens, je suis lyonnais, je débaroule dans les escaliers, ce que les Parisiens ne comprennent pas.
Ça veut dire quoi ?
Tomber dans l'escalier en roulant. Et il y a par ailleurs que j'appellerais les francophonistes universaux, c'est-à-dire que n'importe quel francophone les comprend. Siester, amourer, enceinter, gréver, voilà un terme que les Français pourraient utiliser, sont clairs. C'était pour parler des verbes. Pour les substantifs, on a toute une série de termes, bienvenus, transparents. Entreprise de pompe funèbre, bureau de deuil, dit-on à l'île Maurice.
C'est mieux.
C'est très bien, bien sûr. Ou un enfant illégitime, une balle perdue. En Afrique.
Tiens donc.
Au Val d'Aoste, on dit un enfant de fortune, ce qui est très joli. On a toute une série de termes que l'on pourrait utiliser pour revenir au verbe du premier groupe. Ils sont utiles parce qu'ils transforment toute une lexie en un seul verbe et aussi parce qu'ils permettent des images. Je cite souvent ce verbe merveilleux qu'utilisent les élèves en Afrique pour dire copier sur son voisin.
Qu'est-ce qu'ils disent ?
Girafer. C'est merveilleux parce qu'on a l'image de l'Afrique dans un verbe tout simple. On se penche sur son voisin, on girafe.
Hommage à la première girafe arrivée en France en 1827.
La fameuse girafe, que, naturellement, qui a traversé la France depuis Marseille et qui est morte à Paris, je crois. Elle a été empaillée.
Longtemps après.
Puisons largement dans les verbes, puisons dans les substantifs et dans les expressions.
Votre livre est d'une richesse et d'une saveur vraiment hors de pair. Bernard Cerchellini, votre livre consacré à la francophonie. Au hasard, on peut prendre des formules. Vraiment, j'ouvre par hasard. Écrire comme un pharmacien au Québec, ça veut dire avoir une écriture illisible. Devoir passer deux fois devant le soleil pour faire de l'ombre, ça veut dire être d'une grande minceur ou être très maigre.
Les expressions québécoises sont merveilleuses. Être maigre comme un mort en vacances. Merveilleux.
Être vite sur ses patins.
Voilà. Alors, il faut voir la vitalité du français québécois. Je crois qu'elle tient aussi, alors elle tient à la volonté de se défendre. 3 millions de francophones face à des millions d'anglophones.
Hommage indispensable dans cette émission au Québec.
Indispensable. Mais elle tient aussi au fait que le français s'est installé en Amérique du Nord avant l'entreprise de purification du XVIIe siècle, opérée par Vaugelas, Bourg, l'Académie. C'est la langue de Montaigne et surtout celle de Rabelais qui s'est installée. Et elle a gardé cette vitalité.
Rabelais, formidable inventeur de vocables multiples.
Formidable, dans tous les sens. Et la langue québécoise a cette vigueur, ce goût de l'expression, cette chaleur. Il faut, je crois, s'en inspirer.
Il y a le Québec, donc, qui est essentiel. Il y a aussi, évidemment, il y a également la France des Outre-mer, en particulier des Caraïbes et des Antilles. Je voudrais vous faire entendre un propos du grand écrivain Édouard Glissant, qui était, comme on sait, martiniquais, de Rivière Salée, je crois.
Rivière Salée, oui.
Oui, et qui s'exprime de la sorte à propos des mots à l'intérieur de la littérature et du dialogue, de l'enrichissement mutuel entre le créole et le français. Écoutons-le, c'est un extrait de la prestigieuse émission À voix nue de France Culture. Il dialogue ici avec Catherine Pont-Imbert en janvier 2002.
L'oralité créole n'a pas peur de l'entassement, c'est-à-dire de l'accumulation baroque de tous les éléments qui peuvent permettre de saisir une situation ou une donnée du réel. Par exemple, si vous voulez parler d'une maison extraordinaire et très belle, la langue française trouvera une formule elliptique pour montrer la beauté de cette maison. La langue créole vous dira « Ah, c'était une maison avec 404 chambres, il y avait 210 chambres qui étaient avec ceci ou avec cela. » Il y a une espèce d'accumulation et de confiance dans les mots. Et ça, c'est intéressant parce que nous partageons ça avec tous les gens de cette région. Par exemple, Alejo Carpentier, auteur cubain, qui a parfois écrit en français, mais qui écrivait en espagnol, quelque temps avant sa mort, me disait, nous, Antillais, Caribéens, nous écrivons en français ou en anglais ou en espagnol, mais nous avons le même langage. C'est-à-dire la même manière de faire confiance aux mots, de s'étendre, d'utiliser l'extension baroque dans le récit, qui n'appartient en propre ni à la langue anglaise, ni à la langue espagnole, ni à la langue française. Donc nous avons un langage antillais ou un langage caribéen. Les assonances, par exemple, dans un texte, l'écrivain antillais est naturellement porté à cette sorte de répétition de sons qui rythme le texte et qui lui donne une cadence. Et ça, c'est le propre du conteur créole. Et par conséquent, il m'a toujours paru plus intéressant d'introduire cette poétique de l'oralité dans l'écriture plutôt que de parsemer un texte de termes créoles qui sont facilement exotiques et qui font plaisir à tout le monde. Et je trouve que ça, c'est extraordinaire, parce que la langue française gagne à cela. Elle étend son champ, disons, de vision du monde et de rapport avec le monde.
Le rapport avec le monde, pour l'enrichir, il faut faire confiance aux mots. Bernard Cerchiglini, c'est une expression qui est frappante.
Qui est très belle. Et Édouard Glissant nous a rappelé l'importance du phénomène de créolisation et sa valeur. Ce qu'a fait le créole aux Antilles, le français l'a fait en général. Il s'est inspiré de mots, il les a transformés, il a été innovant, il a fait confiance à cette nature. Et le français est un créole qui a réussi en quelque sorte. On dit toujours c'est un dialecte qui a réussi. C'est un long créole et le laboratoire antillais, surtout quand il est décrit par un Édouard Glissant, nous fait réfléchir et nous fait voir cette valeur du passage des mots, du transfert et de la façon dont il y a une sorte d'innutrition continuelle des idiomes.
Et c'est enrichi aussi des langues régionales après tout en France. Le français, avant que l'abbé Grégoire, pour des raisons généreuses, et notamment au service de la promotion sociale, ait défendu l'universalité de la langue française.
Il est hors de question ici de critiquer l'abbé Grégoire à qui nous devons tant de choses.
Bravo, je vous rejoins.
Et notamment le français, langue de la République. Mais le français, langue de République, cohabite avec des langues qui vivent dans notre pays.
Et c'est pour ça que nous l'avons mis au Panthéon en 1989, date de la naissance de notre actuel Premier ministre, comme nous le savons désormais.
C'est pour cela que vous l'avez fait mettre au Panthéon, avec Monge et Condorcet. Et les langues régionales ont apporté énormément, à commencer par l'autre langue romane en France, l'occitan. Tous ces mots en « ad »,« salade »,« dorade », etc., tous ces mots en « our », « troubadour » et « amour ». Le français disait « amour » en ancien français. C'est l'évolution normale d'amour en français. L'amour, c'est un mot provençal. Et nous faisons dire, Eric Orsona et moi-même, à Mademoiselle Amour, qui est le personnage qui vient témoigner de l'Occitan, nous le faisons dire, quand vous faites la guerre, eh bien c'est du francique, mais quand vous faites l'amour, c'est avec moi.
Nous avons quelques minutes encore, Bernard Sacchilini, pour revenir sur cette question des allers-retours, des mots. Ils sont baladeurs non seulement d'un pays à l'autre, mais souvent ils reviennent ou ils passent par des détours. Je pense en particulier au rôle de transfert que l'anglais a eu entre les langues des pays qui ont été colonisés par la Grande-Bretagne et l'Europe occidentale. On peut prendre des exemples à cet égard frappants. Le mot curry ou curry, par exemple, qui est passé par les Anglais ou qui est passé par les Portugais. On peut multiplier les exemples.
Oui, trop souvent, on cite un mot emprunté par une langue et rester dans cette langue. Mais il ne reste pas, souvent il part. Et il y a un commerce des langues, et le commerce, ça veut dire que on achète et on revend. Et quelques langues ont été porteuses de ces échanges, l'arabe jusqu'au XVIe siècle, l'anglais a pris le relais, et beaucoup de mots sont rentrés en français via l'anglais qui est allé les chercher à la Chine ou dans les langues amérindiennes. C'est un retour perpétuel. Il y a aussi un retour dans les échanges, je dirais, binaires. Un exemple tout simple. L'ancien français appelait paelle un petit plat métallique où on cuisait différents légumes.
Paelle
a donné la paella espagnole, qui est revenue, encore une fois, ma chère métonymie, pour désigner un plat. Un autre exemple, je crois, intéressera l'historien que vous êtes. Vous savez qu'il était de bon ton au XVIIIe siècle de porter des culottes, c'est-à-dire des vêtements s'arrêtant aux genoux. Et l'aristocrate montrait la qualité de son mollet dans un bas de soie auparavant. Et puis, on avait créé à Venise, à la Renaissance, la Commedia dell'arte, qui possédait un personnage grotesque qui portait le prénom de Pantalone. Et en vénitien, c'était Pantalone. La Commedia dell'arte est venue à Paris au XVIIe siècle. Les Italiens, les rivaux de Molière, et les Italiens ont donné de la comédie. Et les Parisiens ont vu ce pantalon, en ont fait le mot pantalon, qui au XVIIe siècle signifie un bouffon. C'est ce que la définition qu'en donne l'Académie française dans son dictionnaire. Mais ce bouffon portait des chausses très curieuses qui descendaient jusqu'à la cheville. Et au XVIIIe siècle, le mot pantalon désigne cette chausse nouvelle qui descend jusqu'aux pieds et qui est populaire. À la Révolution, ceux qui étaient sans culotte portaient des pantalons. Et ce sont eux qui ont fait la Révolution. Et le mot est devenu pour désigner ce pantalon que tout le monde portait.
Et qui a connu une fortune exceptionnelle au XXe siècle autour de notamment des combats du féminisme. Christine Barr a fait un très beau livre sur le pantalon. Nous l'avions reçu aussi longtemps à ce micro.
Exactement. Et le pantalon, c'est la mode. Rastignac porte un pantalon et se moque du père Goriot qui porte encore des culottes. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que dès la Révolution, le mot retourne en Italie. Et le mot calzoni et fait retour en Italie, et à côté de calzoni, on dit naturellement en italien pantaloni, pour désigner ce vêtement. Et donc c'est un mot italien qui a fait retour. La langue principale dans ce domaine, c'est l'anglais. Je suis frappé par le fait que bon nombre d'anglicismes, de mots anglais que nous allons chercher, sont de bons vieux mots français qui ont suivi une sorte de formation continue en Angleterre et qui reviennent, on le sait, pour budget, qui est l'ancienne bougette, la bourse. On le sait pour tennis, qui est l'ancien impératif tenez au jeu de paume. Mais de façon étonnante, récemment, une voyagiste auprès de laquelle j'avais acheté un séjour me dit « Je vous envoie le voucher ». Je lui dis « Non, madame, vous m'envoyez le bon d'échange, le coupon, ou bien le voucher ».
Elle a dû être sidérée.
Plus que sidérée. Je lui dis « Mais madame… »
L'affaire a capoté.
Oui, elle a capoté, elle a failli appeler des secours publics. Je lui ai expliqué que sur le latin « vox », la voix, on avait fait le verbe « vocare », appeler, et appeler au tribunal, attester, témoigner. Et « vocare » a donné l'ancien français bien attesté « voucher », le verbe « voucher », qui a donné l'anglais « voucher », qui signifie « le bon ». Donc pourquoi ne pas dire un « voucher » ?
Vous allez nous dire si dans les mots évoqués par cette chanson que je trouve spirituel, qui remonte à l'époque toute récente du Covid, en fait. Cette chanson due au groupe Les Goguettes qui s'appelle « Drop-moi un mail à SAP ». Vous allez me dire si beaucoup de ces mots sont venus déjà du français. C'est une chanson qui est sur un air, vous allez le reconnaître sûrement, de Boris Vian.
C'était la complainte du progrès du très regretté Boris Vian.
Vous sauriez la chanter ?
Autrefois, pour faire la cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Aujourd'hui, c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille.
Eh bien, cela va donner une saveur particulière à ce que vous allez entendre. Merci, je suis ravi de vous avoir non seulement comme orateur, mais comme chanteur, Bernard Cerchiglini. Vous reviendrez à ce titre, j'en suis sûr.
Autrefois en entreprise, on parlait français. Directeur, agent de maîtrise, on se comprenait. Aujourd'hui c'est du win-win, neuf langues, on jargonne, on baragouine, pour mieux se faire entendre.
Ah, Berthier.
Oui.
Viens présenter notre nouveau projet.
C'est un process 100% e-business, à partir de segments qui ne sont pas confusants.
D'accord.
Du e-learning, issu d'un brainstorming, qu'un débriefing a rendu opérant.
On benchmarkait le marché de la chaussette pour savoir du nylon le taux de pénétration.
S'il y a un gap, tu me drops un mail à Zap, il me faut ton feedback pour focuser l'impact.
Autrefois il arrivait que l'on déconnecte.
Ah bon ?
On osait en fin de journée se reposer l'intellect.
Sans deck ?
Mais depuis qu'on télétravaille, pour stopper les clusters, on conf call, on zoom, on Skype à n'importe quelle heure.
Ah, Boudier.
Monsieur le directeur.
T'as le week-end entier pour nous drafter ta presse.
Easy, c'est un B2B, boosté en B2C, où chaque follower devient un team leader. Du greenwashing pour un meilleur branding, mais dans un flux up-down. Qu'est-ce que je viens de dire, Simone ?
Ah, ce que c'est chouette, cet esprit corporate. C'est hashtag happiness, partout dans l'open space.
Mais Boudier, faut que tu te manies, c'est bientôt la deadline. Forward le reporting, en deux ou trois wording. Au manager, à nos bons actionnaires, à chaque intérimaire, et même au N-2. Au back office, au copy locodir, au comex et au DAF, puis à l'ensemble du staff.
Ok, next step.
Yes.
Faut qu'on switch nos targets.
Indeed.
Demain, je book un kick-off.
Of course.
Pour upgrader le network.
Let's go.
En cas de banqueroute, il y aura des burn-out.
Car on licenciera, comme toutes les autres fois.
PDV, PSE ou RCC au choix.
Bon, bref, on vous virera.
C'est plus du charabia.
Eh bien, je suis sûr, Bernard Cerchiglini, que vous avez repéré dans cette liste féconde et spirituelle, que vous avez repéré certains mots qui illustrent votre propos, autrement dit, qui sont venus du français et qui ont connu un détour par le monde anglo-saxon.
Oui, j'ai entendu par exemple le manager, c'est le ménage, le ménager, un terme bien courant au XIIIe siècle qui signifie gouverner et diriger. J'ai entendu le process, qui est tout simplement le processus, c'est du latin passé par le français. Et puis surtout, dès le titre de la chanson, le mail, envoie-moi un merle. C'est tout simplement merle, l'anglais merle, vient de la malle-poste qui transportait le courrier et qui par métonymie, ma chère métonymie, a désigné le courrier lui-même. L'anglais mail désigne le courrier, le message.
Si, pour finir, Bernard Cerchiglini, on passe de l'analyse, de l'observation à l'esquisse d'une prescription, vous diriez quoi ? Vous écoutez, il me semble que vous refusez le purisme et que vous exigez, vous appelez à la vigilance par rapport à l'affreux globish.
Oui, les langues s'enrichissent et nous refusons l'appauvrissement. Le purisme est un appauvrissement. Mais le globish aussi, qui est un anglais pauvre et qui vient remplacer des termes français qui ont une histoire, une définition, une utilité, c'est de l'enfumage. Et je crois que, comme Henri Estienne et René Thion me l'ont dit...
Ou Claude Agege.
Et Claude Agege aussi, en effet, Claude Agege l'a dit, tout en étant, en connaissant bien l'histoire de la langue et en étant en ayant compris la façon dont les langues se sont nourries à travers le monde, il ne s'agit pas de réduire, dans la mesure où la langue, c'est ce qui fait la nation, ce qui fait la société, et nous devons avoir une égalité et une intelligibilité dans la langue. Je crois que ces deux concepts sont fondamentaux, et le Globish part en guerre contre les deux, car une élite comprend ces mots, le peuple ne les comprend pas, et d'une façon générale, il y a inégalité dans la faible compréhension. Nous devons refuser les mots de ce type.
On rejoint un souci aussi social, par conséquent, que culturel.
Social, la langue est un outil. La langue, et surtout la langue française, qui a fait la nation depuis si longtemps, c'est le bien partagé. Et ce bien doit être partagé également et dans l'intelligence. Vous savez, dans l'ordonnance Villers-Cotterêts, il y a un mot qui me frappe, c'est l'intelligence. François Ier et l'intelligence, c'est à l'époque la compréhension, intelligere. Il faut comprendre. Et c'est pour cela que l'ordonnance de Villers-Cotterêts demande que la justice soit en français et non plus en latin.
L'intelligence est aussi en anglais autre chose. Ça désigne les efforts administratifs ou policiers pour comprendre les desseins des autres, notamment ceux qui sont dissimulés.
C'est le renseignement. Et par anglicisme, on parle maintenant d'intelligence économique, mais le terme me plaît bien, car on peut le ressourcer dans l'intelligence.
Eh bien, nous terminerons sur ce dernier exemple. Je suis heureux que notre conversation, Bernard Cerchiglini, était parsemé d'exemples nombreux destinés évidemment à éclairer votre propos et vos convictions. Vous avez publié, je le disais avec Eric Orsena, un livre tout à fait savoureux qui s'appelait « Les mots immigrés », paru chez Stock en 2022, avec cette idée de la grève des mots qui refusent désormais de servir puisqu'on les désigne et qu'on les méprise, les mots immigrés. On vous doit également ce livre précieux qui s'appelle « Enrichissez-vous », Parler francophone, édité par Larousse en 2016, et on trouvera plusieurs de vos livres essentiels également en ligne. Il faut absolument, avant que nous nous séparions, saluer la grande figure, elle nous écoute peut-être, d'Henriette Walter, qui a publié notamment, entre d'autres ouvrages précieux, L'aventure des mots français venus d'ailleurs chez Lafon en 1997.
Un très beau livre.
Et aussi en 2001, Onissois qui mal y pense.
Nous devons tant à notre chère Henriette Walter, que je salue.
Onique soit qui mal y pense, c'est pour illustrer le fait que l'Angleterre a employé, comme nous savons, à récupérer cette formule.
C'est ça, ce sont les échanges linguistiques entre le français et l'anglais.
Nous avons aussi évoqué le talent et les contributions très précieuses de Jean Pruvot, spécialiste des dictionnaires et de beaucoup d'autres sujets.
Très grand spécialiste, un homme chaleureux à qui nous devons aussi beaucoup.
La story de la langue française, ce que le français doit à l'anglais et vice-versa, ça c'est du latin, paru chez Talendier en 2020. Et puis, figure aussi dans cette brillante pléiade Marie Treps, Les mots voyageurs, Le Seuil, 2003. Vous pourrez trouver une biographie plus complète, vous le savez, elle est très riche, sur notre site, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Car le langage, nous l'avons compris, c'est une aventure de très longue durée. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Inès Benslama, réalisée par Vincent Abouchard. Avec à la prise de son Charles Bouticourt, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, Véronique Jolivet pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel et Noémie Boncourt pour la documentation.